À cela que j'ai à cœur de vous parler ce matin, mais c'est de cette dépendance aussi à Dieu et parfois aussi eh bien, des souffrances qui peuvent être là dans notre âme. J'en ai parlé aussi ce matin lors de la prière. Le danger serait de tomber dans l'autre extrême, idéaliser la fragilité ou refuser d'agir. Non, on a un Dieu tout-puissant qui guérit aujourd'hui encore. On a un Dieu qui bénit. On a un Dieu qui veut qu'on prospère aussi. À tout point de vue. Alors peut-être que l'idée centrale, c'est plutôt celle-ci, la valeur d'une personne dépend ni de sa réussite, ni de sa force apparente. Et ce qui semble fragile peut devenir porteur de sens, voire de transformation. Moi, je suis toujours épaté lorsqu'on voit des fois des missionnaires, on a eu il y a quelque temps Patty Wolf, une petite dame, incroyable, mais quand elle nous raconte tout ce qu'elle fait en Thaïlande, tout ce qu'elle fait dans des pays dangereux aussi, pays d'à côté. Et comment le Saint-Esprit agit. Quand on voit des fois comment le Saint-Esprit agit aussi en nous. Dans Matthieu 5, 3, Jésus ne glorifie pas la maladie ou la détresse lorsqu'il dit « heureux les pauvres en esprit ». Non, mais c'est une conscience des limites de Dieu. Ceux qui prennent conscience qu'ils ont besoin de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de Dieu ce matin ? Quelques personnes. On a tous besoin de Dieu, j'espère. Et toutefois, Jésus va vers ceux qui souffrent pour les relever, les guérir, les restaurer. Paul va dire qu'il a reçu du Seigneur cette réponse. « Ma grâce te suffit ». Il va parler d'une révélation qu'il avait eue, qu'il avait vue il y a 14 ans. Quelqu'un était-ce dans son corps qui avait été conduit comme au troisième ciel. Et il dit qu'il s'enorgueillirait d'un tel homme, mais que de lui pas. Enfin, il parle de lui, c'est assez spécial comme texte. Et après, il dit qu'il y a une écharde qui est venue dans sa chair comme pour, et qu'il a supplié Dieu de lui enlever cette écharde. Et il a reçu comme réponse « Ma grâce te suffit parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». La Bible nous dit, et c'est le verset aussi de l'année, dans 1 Corinthiens 16, 13 à 14, « Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts, que l'amour inspire toutes vos actions. » Là encore, si on nous demande d'être vigilants, de demeurer fermes dans la foi, c'est parce qu'il y a peut-être des occasions de faiblir, de faillir, parce que, eh bien, il y a le découragement, il peut y avoir la maladie, il peut y avoir des troubles. Des persécutions psychologiques à cause de la maladie. Faites preuve de courage, soyez forts, que l'amour inspire toutes vos actions. La Bible parle de la détresse, du désespoir, de la tristesse. Les Écritures emploient des termes comme le désespoir, l'abattement, le découragement, la désolation pour décrire l'état de profonde affliction. Vous savez, on aime bien mettre en avant la réussite, comme je l'ai dit. On aime bien mettre en avant les bons résultats. Vous avez déjà lu Job ? Job et ses terribles épreuves va maudire le jour de sa naissance et souhaiter la mort. Ça vous est jamais arrivé ? Suivant quoi ? Peut-être certains se reconnaissent, d'autres pas. Élie quand même, ouais. Il va quand même glorifier Dieu. Il y a le feu de Dieu qui descend du ciel directement sur l'autel qu'il avait préparé. Tous les prophètes de Baal, il n'y a pas grand-chose qui se passait. Élie, il prie, il y a le feu, il va arroser ça, arroser une deuxième fois, une troisième fois, enfin voilà. Et il y a le feu qui brûle tout. Champion de la foi, et après... Élie, il est dans une profonde tristesse, complètement désespéré, découragé. Moïse et Élie ont prié pour mourir tous les deux. Moïse, on lit un petit peu de l'histoire de Moïse ces temps, dans l'Ancien Testament. Les psaumes regorgent d'expressions qui résonnent avec l'expérience dépressive aussi. « Je suis troublé », va dire Paul, « je suis courbé, je vais en deuil tout le jour ». J'espère pas que vous ressortirez démoralisé. La Bible est remplie d'exemples de profonde tristesse. Mais il faut qu'on le sache, parce qu'on a besoin de prier les uns pour les autres, on a besoin de comprendre eh bien, que le diable, il est rusé et peut nous attaquer de différentes manières, même après une puissante victoire. Job, il était riche à l'excès, il avait une famille merveilleuse, et tout à coup, il perd tout. Élie, il a vécu des trucs que certainement vous et moi, on ne vivra jamais. Ben, on n'est plus à la période des sacrifices, c'est normal, vous me direz, mais... Mais quand même, c'est pas anodin, là. Il prie pour... Vous faites un barbecue, là, et puis vous n'avez pas d'allumette, pas de feu, pas d'allume-feu, vous priez... Bon. Bon, après le problème, c'est qu'il n'y a plus rien à manger, parce que tout est grillé, mais... Mais la Bible est remplie d'exemples de profonde tristesse, mais aussi d'encouragement adressé à ceux qui la vivent, comme le psaume 34, par exemple, et bien d'autres psaumes qui représentent aussi une perspective pleine d'espoir au milieu de la souffrance de David. Parce qu'il n'y a pas que le désespoir, amen. Il y a vraiment Dieu qui nous tire hors du désespoir. Lamentation 3 montre Jérémie décrivant sa dépression, puis reconnaissant aussi que malgré ses épreuves, Dieu reste fidèle, miséricordieux et bon. Et oui, il y a tout ça dans la Bible. Du coup, ça vaut la peine de la lire. Et si vous n'avez pas pris en route encore le plan de lecture, eh bien, il y a un plan de lecture, il y a possibilité d'être inscrit sur un groupe WhatsApp ou d'avoir un Google Docs et tous les jours d'être encouragé à persévérer, parce qu'on a besoin d'encouragement. Et c'est l'objectif. La solution biblique à la dépression, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Avant même de restaurer Job, Dieu lui offre une rencontre personnelle avec le Créateur et soutient toute sa vie. Bien que la dépression soit une lutte réelle, l'être intérieur peut être renouvelé par la foi, en orientant la personne vers Christ comme son espoir dans la souffrance. Alors, mon premier point, bon désolé, il y en a plein, mais ils seront très courts. Mon premier point, c'est que Dieu ne rejette pas la faiblesse intérieure. La souffrance psychique est réelle, l'anxiété, dépression, instabilité émotionnelle, troubles profonds. Aujourd'hui, c'est courant eh bien, qu'on va parler de certains termes. Vous dites, ouais, il est ceci, il est cela. Des fois, on dit ça alors qu'on ne sait même pas de quoi on parle. Mais enfin, voilà, ça fait de bon temps de sortir certains termes. Au psaume 34, verset 19, il est écrit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et sauf ceux dont l'esprit est abattu. » C'est pas que la maladie physique, hein, ceux qui ont le cœur brisé. Parce que la maladie de l'âme, eh bien, provoque le cœur brisé, l'esprit abattu. Ésaïe 42, 3, « Il ne cassera pas le roseau déjà plié, il n'éteindra pas la lampe qui faiblit. » Parfois, on peut être comme plié par différentes choses de la vie. Même ceux qui vivent des tempêtes intérieures intenses, même ceux qui luttent avec des troubles, comme borderline, vous avez déjà entendu ça. Des fois, on va dire « il est » ou « elle est borderline », on ne sait pas ce que ça veut dire, mais voilà. Bref, ou bipolarité ou dépression, par exemple. On va utiliser des termes et bien d'autres encore. Il est HP, il est ceci, elle est... Les personnes qu'on dit borderline peuvent vivre des émotions très intenses, changeantes, passer rapidement de la joie à la détresse. Une grande peur, l'abandon, des relations instables, idéaliser quelqu'un, puis le rejeter complètement. Ça peut être très déstabilisant pour ceux qui entourent. Une image de soi fragile, fluctuante, parfois des comportements impulsifs, la colère, des dépenses, des conduites à risque, dans certains cas, des gestes d'automutilation, des idées suicidaires, etc., etc. Ce qui est important à comprendre, c'est que ce n'est pas fait exprès. Ce n'est pas pour faire le difficile ou le pénible. C'est une souffrance réelle, souvent liée à une hypersensibilité émotionnelle, à des expériences de vie compliquées. Et dans le cas des troubles bipolaires, ça se caractérise par des variations importantes en deux pôles. Bipolaire, deux pôles, c'est un peu logique. Hein, des phases dépressives et des phases maniaques. Dépressive, c'est une tristesse profonde, perte d'intérêt, fatigue, manque d'énergie, difficulté à se concentrer, parfois des idées noires. Et on peut rallonger la liste. Et tout à coup, il y a des phases maniaques, des phases hypomaniaques, une énergie très, très élevée, plus trop besoin de dormir. tu as l'impression que la personne peut, tout à coup, elle passe du fond du bac à complètement exalté, amen, alléluia, gloire à Dieu, tout va bien. Sentiment de toute puissance, d'euphorie, pensées qui vont très vite, comportement impulsif, dépenses, décisions risquées, etc. Et ces phases ne sont pas juste des hauts et des bas normaux, elles sont intenses, elles sont excessives. Elles durent plusieurs jours, plusieurs semaines et peuvent perturber fortement la vie quotidienne des gens qui sont frappés par ça. Et il existe évidemment plusieurs formes et plusieurs intensités, plusieurs niveaux, mais vous n'êtes pas là pour un cours psychologie ce matin, juste comprendre. Parce que quand on dit quelqu'un qui a le diabète, on sait de quoi on parle, plus ou moins. Quand on dit quelqu'un qui a le cancer, alors même s'il y en a des dizaines de sortes, on sait de quoi on parle. La bipolarité, ce n'est pas une faiblesse spirituelle ou un manque de volonté. Ce n'est pas parce que la personne a péché et un moins bon chrétien ou une moins bonne chrétienne, mais une réalité humaine qui demande soin et compréhension et pas jugement. Actuellement, vu mon âge canonique, j'ai de l'arthrose. Et d'autres choses, mais ce n'est pas grave. Et tout le monde sait plus ou moins ce que c'est. C'est facile, ce n'est pas humiliant. On continue. Hein. Dieu ne rejette pas, il s'approche de celles et ceux qui souffrent dans leur âme, dans leur conscience. Même dans l'instabilité, Dieu reste stable, il est cet élément stable. Et c'est mon deuxième mini-point, quand tes émotions changent, quand ton esprit vacille, dans Hébreux 13:8, il est écrit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Et c'est bon de s'appuyer sur quelque chose qui est stable, sur le roc. Sur le roc. Dans Malachie 3, verset 6, il est écrit « Je suis l'Éternel, je ne change pas ». Ton identité n'est pas définie par tes cycles, mais par Dieu. Dans Ésaïe 43, verset 1, il est dit « N'aie pas peur, je t'ai libéré, je t'ai appelé ». Personnellement, tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Et c'est bon de proclamer la parole, de s'approprier aussi la parole de Dieu. Quelque chose qui est stable. Troisième chose que j'aimerais vous dire ce matin, c'est qu'il y a une espérance réelle, même dans les combats. Il y a une espérance réelle. Même si tu passes par des hauts et des bas, dans Lamentations 3, versets 22-23, il est dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. » Elle se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande. Vous aurez remarqué que ce n'est pas dit, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin pour ceux qui sont tip-top. Pour ceux qui sont parfaits. Pour ceux qui ont déjà jeûné 3 jours avant. Non. Ça veut dire que ton état peut fluctuer, mais ton espérance est renouvelée chaque jour. Et aujourd'hui, ça peut être un jour nouveau. Aujourd'hui, ça peut être le jour de la guérison. Quatrième chose que je vous laisse, c'est que Dieu agit aussi à travers des moyens concrets. Dieu utilise des chemins pratiques. Dans Luc 5, 31, il est écrit « Jésus prit la parole et leur dit « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades ». Vous avez parlé que certains ont besoin d'être hospitalisés pour un temps. Parfois se faire aider, ben la Bible parle aussi de médecin. Si vous êtes en bonne santé, gloire à Dieu, vous n'avez pas besoin de médecin. Jésus le dit, ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecin, mais les malades. Et se faire aider, des thérapies, des suivis médicaux, ce n'est pas un manque de foi, c'est simplement la sagesse. Quand j'ai dit, quand on souffre d'arthrose, quand on souffre de ceci, de cela, moi, j'ai des douleurs chroniques. Le Seigneur ne m'a pas encore guéri. J'aime bien dire pas encore, parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. J'ai déjà eu plusieurs infiltrations, j'en aurai d'autres. En attendant, je dirais, tant que le Seigneur ne m'a pas encore guéri, je vais faire tout ce que je peux, humainement parlant, pour me soigner. Si j'ai une jambe cassée, je vais aller chez le médecin. Je ne vais pas dire... Voilà, le Seigneur peut me guérir miraculeusement, oui. Il m'a guéri des ligaments croisés, ligaments latéraux, ménisques. Ça a été fait, ils n'y comprennent rien. Mais quand j'avais l'âge de 16 ans, j'ai aussi dû me faire opérer de la colonne vertébrale. Et ce n'était pas un manque de foi, toute une église priait. Tant que le Seigneur ne guérit pas, on va chez le médecin et on se fait soigner. Cinquième chose, c'est vraiment aussi cette proclamation, cet appel de la délivrance. Jésus ne fait pas que consoler, il restaure. Et il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance en étant en Jésus-Christ. Dans Luc 4, versets 16 et suivant, Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le roula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Et comme j'ai dit, si le Seigneur peut guérir physiquement, il peut guérir aussi émotionnellement, spirituellement, psychologiquement. Ceux qui ont le cœur brisé. Et l'Église doit prier, comme on l'a fait ce matin. Et on va continuer de prier, de proclamer, de dire « Oui, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Tu l'as dit, Seigneur. » Et on veut voir ta gloire, on veut voir des signes, des prodiges et des miracles dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, parce que c'est Jésus qui guérit. Et que le Seigneur fortifie notre foi et nous aide à avoir l'audace de la foi. C'est un don, la foi. Et j'ai besoin de plus de foi. Mais comme je sais que c'est un don, eh bien, je peux demander à Dieu de me donner plus de foi. J'ai vécu la guérison. Ma femme a vécu la guérison. J'ai vu des guérisons. Mais j'ai aussi vu des gens pas encore guéris. J'aime bien dire pas encore guéris. Parce que quand on dit pas guéri, c'est... ça ferme la porte, mais pas encore. Dans Matthieu 11, 28, il est écrit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Là encore, un fardeau, c'est quoi? C'est juste la fatigue? C'est parce qu'il y a trop de travail? C'est parce que mon patron est difficile? Oui, ça peut être. Enfin, moi, je ne vais pas me plaindre de mon patron, c'est Jésus. Vu que je suis... Mais indépendamment de la plaisanterie, la plaisanterie, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau. Comme j'ai dit, ça peut être un fardeau aussi pour l'entourage, quand quelqu'un souffre dans son âme. Aujourd'hui, Dieu veut apaiser ton esprit. Aujourd'hui, Dieu veut restaurer ton cœur. Aujourd'hui, Dieu veut briser ce qui t'enchaîne intérieurement. Aujourd'hui. La guérison peut être instantanée, progressive, prendre du temps, mais elle est réelle. Dans les psaumes de David, on voit souvent ce mouvement, partir de la détresse, puis se souvenir, puis rendre grâce malgré tout. David a été vrai, lisez les psaumes. La reconnaissance ne nie pas la souffrance, elle empêche qu'elle vienne toute la réalité. La reconnaissance, ce n'est pas dire merci parce que je souffre. C'est merci parce que Dieu est là dans la souffrance. C'est très différent. Quand on dit qu'il faut remercier Dieu tout le temps, il ne va pas remercier parce que tu t'es cassé le pied quand même. Il ne faut pas pousser grand-maman dans les orties. Regardez dans les psaumes, ils ne cachent rien. Angoisse, colère, sentiment d'abandon. Jusqu'à quand, Seigneur ? La reconnaissance authentique ne commence pas par « merci », mais par « voilà ce que je vis vraiment ». Et c'est ça dans les psaumes. David, il commence toujours par étendre, épancher son cœur. Dans les psaumes, on voit souvent ce mouvement « je vais mal, mais je me souviens de ce que Dieu a fait ». Souvenez-vous de ce que Dieu a fait. Dans la détresse, la reconnaissance, ce n'est pas un sourire forcé, c'est une fidélité fragile à Dieu, même quand tout en toi voudrait lâcher. J'ai souvent entendu, moi je suis né entre deux pages de Bible, je ne sais pas lesquelles, mais avec Jésus, tout va bien. Ça c'est quelque chose qui m'a toujours un peu surpris, puis je ne suis pas toujours en plein accord avec, désolé. Parce que c'est vrai, des fois ça peut être dur. Ça peut être dur. On va lire le psaume 13. Le psaume 13, au chef de cœur. Psaume de David, je vais le lire là parce que je ne suis pas sûr d'avoir mis la même version. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ?» Waouh. « Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage ?»« Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur ?»« Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi ?» Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, donne la lumière à mes yeux afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire « Je l'ai vaincu » et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel car il m'a fait du bien. Il y a un verset positif là-dedans. Un verset positif et 5 où il dit « Mais c'est galère, les amis, c'est galère. » Et c'est pour ça que mon 6e point, c'est un appel à la prière, à la prière. Si tu es dans ce combat, dis simplement « Seigneur Jésus, je viens avec mon chaos intérieur, mes pensées instables, mes émotions que je ne contrôle pas. Je crois que tu peux me toucher, donne-moi ta paix, commence ton œuvre en moi. » Amen. Jésus peut le faire, veut le faire. Parce que ce n'est pas dans son plan qu'on souffre. Ce n'est pas dans son plan qu'on soit malade. Ce n'est pas dans son plan. Philippiens 4, 6, 7 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. » Des prières et des supplications. Des supplications. Est-ce qu'on veut vraiment ? Supplier, Seigneur, au secours. Est-ce qu'en tant qu'Église, on supplie Dieu aussi pour nos frères et sœurs qui sont dans la souffrance ? Verset suivant, verset 7. « Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ces prières, ces supplications conduisent à la paix. Amen. 7e point. Et là, c'est pour ceux qui ne souffrent pas. Ceux qui disent, mais il faut qu'il arrête de faire son pénible celui-là. Qu'est-ce qui me casse les pieds, les oreilles et tout le reste ? Comment accompagner avec compassion ? L'Église n'est pas appelée à juger, mais à porter. Galates 6, 2. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Portez les fardeaux les uns des autres. C'est ça l'Église. Si vous êtes pour l'Église par Internet, vous n'avez aucun fardeau à porter les uns les autres. De toute façon, vous vous en fichez des autres. Mais parce que vous ne les voyez pas, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais une Église non virtuelle, on a des frères et sœurs. Et la Bible nous dit de porter les fardeaux les uns des autres. Romains 12, 15, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Ce n'est pas juste dit proclamer la victoire, se réjouir toujours, et puis on va mettre sous le paillasson, les pleurs. Parce que ça nous gâche l'ambiance quand même. Non, c'est se réjouir avec ceux qui se réjouissent et c'est pleurer avec ceux qui pleurent. C'est ça l'Église aussi. C'est de savoir aussi faire preuve d'empathie. C'est pas... donner des conseils, il n'y a qu'à, faut que. Il y a certainement du péché dans ta vie, ce n'est pas possible autrement. 1 Thessaloniciens 5, 14, nous vous y invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, renforcez ceux qui sont abattus, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. Il y a tellement de versets dans la parole de Dieu, mes amis. Alors concrètement, et je terminerai avec ça, et on prendra la Sainte Cène aussi, qui est aussi un repas de délivrance. Concrètement, ça veut dire aussi accueillir sans juger. Arrêter avec les phrases comme « tu dois juste prier plus ». C'est un manque de foi. Et remplacer par « je suis là avec toi ». Vous savez, des fois, il vaut mieux se taire que de dire des paroles. Des fois, on ne sait pas quoi dire, mais juste une présence, une main sur l'épaule. c'est tellement plus que des mots vides de sens. Écoutez, donc j'ai dit accueillir, mais écoutez. Écoutez avant de corriger, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. Aujourd'hui, on va parler, puis après, peut-être, si on a le temps, on va écouter. Ben non, on écoute. Parfois, la présence guérit plus que les paroles. Encouragez, sans écraser. Pas imposer une pression spirituelle irréaliste, mais rappeler doucement l'espérance. Conduire à l'espérance Jésus. Orienter aussi vers de l'aide, accompagner vers des professionnels quand c'est nécessaire, plutôt que vers la honte, quand c'est nécessaire. Si quelqu'un a besoin d'un médecin, comme j'ai dit, à telle ou telle douleur, telle ou telle souffrance, ben naturellement on va l'amener chez un médecin, l'encourager à aller consulter un médecin. Parfois, c'est aussi nécessaire d'encourager, d'avoir de l'aide aussi. Et puis, c'est aimer dans la durée. Aimer un jour, une semaine, un an, c'est facile. Mais dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, si Dieu n'est pas encore intervenu, aimer dans la durée. Les troubles psychiques ne disparaissent pas toujours vite. 1 Corinthiens 13, 4 nous dit « L'amour est patient, il est plein de bonté ». De nouveau, c'est la Bible qui le dit. Alors, en conclusion, la faiblesse, ce n'est pas la fin. Elle peut devenir un lieu de rencontre avec Dieu, un chemin de transformation et un témoignage vivant. Et pour l'Église, eh bien, on est appelé à être un refuge, pas un tribunal. Dans Jean 13, 35, il est écrit « C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et je vais m'arrêter là. De l'amour les uns pour les autres. Et ce matin, si plusieurs sont dans ce cas de souffrance, ben ce matin, ce message, il est aussi pour vous. Si vous êtes en pleine forme, bénissez Dieu. Et faites preuve de compassion aussi, d'amour, de grâce, de soutien, de persévérance aussi dans l'amour. Persévérance dans l'amour. Au début, c'est toujours facile, hein. C'est comme Yasgag qui dit « L'éternité, c'est long, surtout à la fin. » Persévérance. Est-ce qu'on est prêt à persévérer ensemble aussi? Et là, Sainte-Seine, c'est le rappel que Jésus a tout accompli. Que par ses meurtrissures, on est guéri. Qu'on veut bénir l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans notre bouche. Parce qu'on regarde à la croix, on regarde à Jésus, on regarde à sa victoire. Au verset 5 du psaume 34, il est dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré. » C'est ça aussi la Sainte Cène. C'est Ésaïe 53 qui dit que par ses meurtrissures, eh bien, on est guéri. La Sainte Cène, ce n'est pas un acte magique. Ce n'est pas un acte mystique, c'est un souvenir. C'est un souvenir que Jésus a tout accompli, que Jésus a donné sa vie et qu'aujourd'hui, eh bien, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur nous. Parce que Jésus a tout accompli. Et si on peut aimer, si on peut réconforter, si on peut trouver le pardon, si on peut pardonner, c'est parce que Jésus a tout accompli. Ce matin, ce repas, il est pour nous tous. Même pour ceux eh bien, qui ont peut-être méprisé ceux qui souffrent. Parce qu'on est terriblement mal à l'aise face au non encore guérison. On a pris un temps, 2 temps, 3 temps. Puis après, finalement, on va essayer de détourner notre regard parce que ça nous dérange, ça nous culpabilise, on se dit mais pourquoi il ou elle n'est pas guéri? C'est certainement parce qu'il y a du péché dans sa vie. Ça, c'est l'arme fatale. Quand Dieu m'a guéri de mon genou complètement, j'y ai pas cru. J'ai méprisé la prière qui a été faite. Et Dieu m'a guéri malgré tout. Dieu m'a guéri malgré tout. Quand Dieu a donné une descendance à Abraham, sa chère épouse a ri. Parce qu'elle n'y a pas cru, parce qu'elle était déjà très âgée. Là aussi. Repentons-nous de dire aux gens, si tu n'es pas guéri, c'est parce que tu manques de foi. Ne nous prenons pas pour Dieu, mes frères et sœurs. Et là, je suis sérieux. Ne nous prenons pas pour Dieu. Ne soyons pas des amis de Job une fois qu'ils se sont mis à parler. Mais soyons les amis de Job jusqu'à ce qu'ils parlent, qui étaient présents. Jusqu'à ce qu'ils parlent, ils étaient parfaits. Eux, ils étaient là. Et ce repas de Sainte-Cène, eh bien, c'est un repas de délivrance. Aussi pour nous, pour ceux qui ont besoin de délivrance, mais aussi pour ceux qui ont accusé injustement ou qui se sont détournés, qui se sont lassés de prier. Là aussi, la Bible nous parle de persévérance. Continuons de prier, de porter les fardeaux les uns des autres, de prier les uns pour les autres. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce pain et ce fruit de la vigne, Seigneur, qui symbolise ton corps, qui symbolise ton sang qui a coulé. Et Seigneur, moi je veux proclamer que c'est un repas de délivrance pour nous tous. Délivrance pour celles et ceux qui souffrent dans leur corps, celles et ceux qui souffrent dans leur âme, celles et ceux eh bien, qui ont peut-être accusé d'autres aussi, qui se sont détournés. Peut-être je me suis détourné aussi à différentes reprises parce que j'étais mal à l'aise face à la souffrance. Seigneur Jésus, tu guéris notre âme, nos pensées. Et Seigneur, oui, merci, parce qu'un jour, eh bien, on prendra ce repas avec toi. Et aujourd'hui, eh bien, on peut prendre ce repas en communion les uns avec les autres, et déjà en communion avec toi. Et Seigneur, c'est un repas de victoire. Gloire à ton nom, Jésus. Amen.